Donc on retourne dans le livre des Juges au chapitre 4 et nous étions en train de voir en fait la situation en Israël à cette époque sous Déborah qui était une femme, une prophétesse comme on avait vu la dernière fois, mais pas que. Et c'était intéressant de voir comment elle nous est présentée hein, dans le verset 4, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote. Elle était juge en Israël et elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Et donc la dernière fois, nous avions vu hein, son rôle en tant que prophétesse et de voir aussi que déjà dans les détails qu'on avait lus, que Dieu hein, lui avait communiqué ce message par rapport à Barak, hein, qui devait donc lever une armée de 10 000 hommes et puis, eh bien, libérer hein, Israël de cette oppression cananéenne. Mais ce que je voulais aussi qu'on regarde par rapport à Déborah un peu plus aussi, c'est le fait que, bon, elle nous est présentée hein, sous ces quelques mots, femme de Lapidote. Hein, et le truc, c'est que, bon, on ne sait absolument rien sur cet homme. Il n'y a aucune indication hein, à propos du mari de Déborah. Tout ce qu'on sait, c'est que son prénom signifierait un flambeau. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont essayé hein, de trouver d'émettre plusieurs hypothèses hein, sur son identité, sur qui il était. Mais très sincèrement, tout ce qu'on peut vraiment dire de lui, c'est que il a épousé une femme pieuse. Et ça, c'était tout à son honneur. Hein, parce que bon, certains ils pensent que Lapidote peut-être était même déjà décédé, hein, ce qui aurait permis justement à Déborah de pouvoir faire ce ministère de prophétesse et de juge en toute liberté, etc. Mais il n'y a absolument rien, rien du tout qui nous indique dans ce texte que c'était le cas. D'autres ont pensé peut-être aussi hein, que Déborah, eh bien, le fait que ce titre lui soit un peu donné, hein, collé un peu à la peau, la Marie, femme hein, de Lapidote, il y en a qui trouvent ça peut-être, surtout aujourd'hui, hein, avec notre regard du 21e siècle, comme quelque chose de rabaissant pour une femme d'être tout de suite associée à son mari. Bon, faut encore remettre les choses dans le contexte. Hein. C'était une société qui était patriarcale, c'est vrai, dans la culture, c'est ce qui se faisait. Pour les hommes, on nous disait, bah, il était le fils d'eux. Hein, et puis, donc, c'est ainsi que les choses se présentaient hein, au Proche-Orient, hein, dans l'Antiquité. Mais les hommes, hein, ils étaient hein, toujours, c'est vrai, identifiés hein, par rapport à leur père. Mais ici, franchement, je ne crois pas qu'il y a besoin de faire un débat sur ce sujet-là, parce que tout le chapitre nous parle justement de Déborah. Et on ne sait absolument rien de son mari, Lapidote. Le fait que son prénom signifie un flambeau, hein, certains ont avancé l'hypothèse, peut-être ça, voilà, c'était un titre pour caractériser un peu Déborah, pour caractériser son ministère, hein, le rôle qu'elle a joué en tant que guide, hein, qu'elle aurait éclairé Israël. Mais là encore, c'est toutes sortes de suppositions que bah, c'est pas dans le texte. Et on ne veut pas s'amuser non plus à dire au texte ce qu'il ne dit pas, même si ça paraît très bien. Hein, et ça, c'est vrai que c'est dans l'air du temps, hein, aujourd'hui, pour les gens, d'essayer de sortir des choses du texte, ils n'y s'y trouvent pas juste parce que, tiens, ça sonne bien, ça fait beau, c'est intéressant, etc. Mais voilà, donc il n'y a aucune raison hein, vraiment d'interpréter ce passage de cette manière-là. Tout ce qu'il faut retenir, c'est voilà, elle était mariée. Elle était mariée, mais ça ne l'a pas empêchée de servir le Seigneur et d'avoir un impact important hein, dans la vie spirituelle de son pays. Dans le chapitre 5, bon, il y a au verset 7, il y a juste cette information de ce qu'elle nous dit dans ce cantique qu'elle a chanté. Elle dit, quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Alors, peut-être qu'elle était mère. Peut-être c'était juste pour désigner aussi toutes ces femmes qui, eh bien, sous cette oppression cananéenne et cette violence et le fait que, Ben, quelque part, les hommes étaient un peu aux abonnés absents, on a l'impression, hein. Et peut-être que oui, hein, les femmes se sont levées face à toute cette situation, et elle, en tant que mère, elle a voulu aussi faire quelque chose pour ses enfants, pour son peuple, pour son pays. On se rappelle que il y a, c'est vrai, si on regarde un peu à cette image-là, hein, de l'oppresseur, hein, de Jabin et de Sisra, de cette grande armée avec tous ses chars, etc., et de voir la violence qui était accompagnée par cette armée, l'emprise de fer que le roi avait sur le peuple d'Israël, sur les tribus d'Israël. Et face à cela, qu'avons-nous? Nous avons une mère qui, dans sa manière de faire les choses, dans sa manière même de répondre à Barak, on voit de la douceur d'une maman en fait. Et ça fait un gros contraste qui est intéressant à souligner. Mais encore une fois, je crois que dans ce chapitre, il y a une leçon importante par rapport aux hommes. C'est vrai que parfois, on peut se sentir impuissant face à nos ennemis spirituels, aux ennemis moraux. Mais il ne faut jamais oublier de voir à travers ces écrits ce que Dieu est capable de faire quand il y a des personnes qui sont disposées, quand il y a des personnes qui sont volontaires. Hein, certains le disent fréquemment. Quand on est un plus Dieu, c'est la majorité. On ne peut pas être en sous-nombre lorsque on fait la volonté de Dieu et que Dieu nous accompagne. Mais cette situation ici en Israël, on a vraiment donc cette impression que la situation est tellement sombre spirituellement que les hommes qui normalement avaient une responsabilité spirituelle envers leur foyer, envers leur pays, eh bien on a du mal à les trouver. On voit cette femme donc qui est présentée ainsi, donc une prophétesse, une épouse, une mère, mais une juge aussi. On sait que Déborah donc résidait dans le sud du pays. Mais comme on l'a dit dans l'introduction, hein, l'action qui est décrite dans les chapitres 4 et 5 se déroule plutôt, hein, dans la partie nord du pays. Donc elle était juge, c'est-à-dire qu'elle réglait les différends. C'était aussi qu'elle avait une autorité, et une autorité que même les gens à l'époque reconnaissaient, parce qu'on voit au verset 5 que les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Donc eux-mêmes reconnaissaient, hein, l'autorité. La sagesse aussi, hein, de Déborah en tant que juge. Et dans un sens très concret, pardon, l'image que l'on voit, c'est l'image d'une femme qui, eh bien, quand il n'y a personne qui se bouge, elle va prendre les devants, prendre la responsabilité et quasiment diriger, hein, la nation. Et pour beaucoup de commentateurs, en regardant même à Déborah et puis en analysant un peu son caractère et les choses qu'elle a accomplies, beaucoup voient une figure telle que ben, la monarchie aurait dû être aussi. On sait que des années plus tard, le peuple d'Israël réclamera un roi, mais l'Éternel les avait avertis, hein, de ce que le roi ferait avec leurs enfants, avec le pouvoir qui lui serait confié. Et on sait que très vite, hein, ce pouvoir a été corrompu. Mais avec Déborah, on voit une femme qui a une responsabilité importante dans le peuple, à la fois sur le plan, on va dire, social et juridique, mais aussi spirituel, et que ben, on ne voit pas qui que ce soit contester, en fait, cette autorité-là. Et donc, de cette manière-là, elle donne, hein, une image, hein, de ce que aurait pu être, hein, la royauté plus tard. Donc elle est la seule femme juge, comme on l'a déjà noté, et c'est en soi déjà, bon, comme on l'a déjà souligné, c'est un jugement contre les hommes, hein, à l'époque, au verset 7, hein, du chapitre 5, il est écrit que les chefs étaient sans force en Israël, sans force, quand je me suis levé, moi, Déborah. Donc la situation, hein, c'est vraiment une situation où bah, les hommes n'ont pas rempli leurs responsabilités. Que ce soit en tant qu'homme vis-à-vis de Dieu, homme vis-à-vis de la nation, hommes vis-à-vis de leurs responsabilités spirituelles dans leur famille. Donc, on voit ici dans ce chapitre 4 aussi ce détail par rapport au fait que, oui, il y avait un lieu fixe où Déborah siégeait et où elle tenait audience. C'était sous un palmier entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Moi, ça m'a fait un peu penser à un roi de France qui faisait ça sous un chêne, Saint-Louis, au XIIIe siècle, qui apportait la justice sous un chêne. Mais s'il y a cette image, je trouve ça sympa quelque part d'aller dans un endroit comme sous un arbre pour obtenir la justice, plutôt que voilà, on a un bâtiment qui est établi, les gens viennent, etc. Et ça montre que aussi bon l'ouverture de n'importe qui pouvait venir et aller auprès d'elle trouver justice. On ne sait pas combien de temps non plus Déborah exerça son ministère avant cette bataille et la délivrance qui a suivi. Mais comme on l'a vu, elle a reçu cette révélation de Dieu par rapport à comment cette libération allait se produire. Et donc, il nous est dit, ici, au verset 6, elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kedesh-Nephtali, et elle lui dit: n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Naphtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisra, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Verset 8, Barak lui dit: si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit: j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisra entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Donc on sait que Barak avait été ici appelé par l'Éternel. Déborah avait reçu cette révélation et avait appelé donc Barak à prendre cette responsabilité de lever une armée et d'aller combattre l'ennemi. Barak, dont le nom signifie éclair, appartenait à la tribu qui avait vraisemblablement souffert le plus de cette oppression cananéenne. Et donc on aurait pu même penser que lorsque Déborah prononça cet appel de Dieu sur lui pour combattre l'ennemi, il aurait répondu avec peut-être avec témérité, il aurait pu répondre rapidement: oui, j'y vais, n'est-ce pas? Mais sa réponse surprend. Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. On voit quelqu'un qui semble hésiter à obéir. Et la leçon ici, qui est importante, c'est que notre obéissance à Dieu ne doit pas dépendre de ce que font les autres. Et c'est là où on souligne déjà un problème avec Barak. Mais en même temps, on souligne aussi avec Déborah, encore une fois, ce caractère de douceur où elle dit: oui, je t'accompagnerai. Elle n'a pas dit: non, écoute, c'est toi que Dieu envoie, tu te débrouilles et oh, hein, prends tes responsabilités. Non. On voit vraiment en Déborah, encore une fois, cette tendresse de vouloir vraiment aider son peuple et même d'aider Barak qui peut-être avait peur, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est juste ce fait que il dit: mais si tu viens pas, je n'irai pas. Ça veut dire que pour lui, son obéissance à Dieu dépendait du fait que, si elle m'accompagne ou non. Et ça me rappelle le fait que ce que le Seigneur veut pour notre vie nous concerne nous tout d'abord. Ça m'a fait penser, on a vu récemment, le passage dans Jean chapitre 21, lorsque le Seigneur il a restauré Pierre, rappelez-vous, avec ces trois questions de m'aimes-tu. Mais on voit dans Jean 21, verset 21, Pierre qui dit à Jésus: et à celui-ci, que lui arrivera-t-il? Il fait un peu la même chose. C'est-à-dire que le Seigneur vient lui confier une mission, hein, de prendre soin de ses brebis, de ses agneaux, etc. Et Pierre, il est là, mais eux alors? Et la réponse de Jésus, c'est quoi? S'il veut que je demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Et donc, lorsque Déborah a transmis cette révélation prophétique à Barak, hein, lui ordonnant de rassembler 10 000 hommes et de les faire marcher jusqu'au mont Tabor, eh bien, on voit un homme hésitant et on voit un homme qui n'est pas prêt à obéir à l'Éternel. Il pose des conditions à l'obéissance. Il pose des conditions comme si, voilà, il voyait en Déborah quelqu'un de peut-être plus grand, plus fort, que bah, la victoire, eh bien, ça va être qu'avec Déborah, donc si elle vient, moi je suis prêt à y aller. Et il a ignoré complètement ce qu'elle venait de lui dire. Que venait de lui dire Déborah? Déborah vient de lui dire, tu vas prendre 10 000 hommes, c'est un ordre de l'Éternel, et l'Éternel va te livrer l'ennemi, et il va te donner la victoire. Donc, il y a le problème de ne pas prendre la parole de l'Éternel au sérieux, de ne pas avoir foi dans ce que l'Éternel dit, presque ne pas avoir foi même, eh bien, dans la servante de l'Éternel qui lui a dit, voilà ce que l'Éternel a dit. Et il ne prend pas au sérieux le fait que l'Éternel lui dit, j'attirerai vers toi Sisra, je te le livrerai entre tes mains. Je dirais pas que c'est un peu un coup tordu hein, de la part de Barak, mais presque. Hein, c'est une façon de dire, je suis prêt à y aller, mais en même temps, j'ai pas envie d'y aller. C'est une façon de dire, oui, bon, peut-être que oui, je peux peut-être, mais voilà, bah, si tu viens, oui, bon, j'y vais. Et c'est vrai que dans le service pour le Seigneur, c'est vrai que c'est important d'être accompagné. Hein, le Seigneur lui-même, il a envoyé ses disciples deux par deux, où on voit même dans le livre des Actes que Paul et Silas, ils n'étaient pas forcément seuls, ils étaient accompagnés de toute une équipe d'hommes qui étaient là aussi pour aider, pour prier, pour évangéliser avec eux, pour s'occuper de différentes choses, et ils n'étaient pas seuls. Et on comprend l'importance de ne pas être seul, n'est-ce pas? Mais est-ce que Barak allait être seul? Non. L'Éternel lui a dit, prends 10 000 hommes. 10 000 hommes! On peut pas dire qu'on est seul. Mais en plus, l'Éternel est celui qui assurerait la victoire et il ne serait pas seul. Un Dieu, il avait prévu que ce soit Barak, donc, qui terrasserait Sisra. Hein, c'est ainsi que l'Éternel avait planifié la libération de son peuple. Mais on a un homme qui n'est pas prêt à faire tout ce que Dieu lui demande et qui pose ses conditions. Donc oui, Déborah accepte, mais elle lui dit, c'est pas toi qui auras la gloire, ça sera une femme. Encore peut-être pour enfoncer un peu le clou encore un peu plus, là, ben, c'est pas très glorieux les hommes à cette époque-là. Ben, tu aurais pu avoir cette gloire, tu aurais pu avoir cette renommée, mais tu ne l'auras pas finalement à cause de ton attitude et ton manque de foi. Et donc on voit effectivement, hein, verset 10, que Barak va convoquer Zabulon et Naphtali à Kedesh, donc 10 000 hommes vont marcher avec lui à sa suite, Déborah qui part avec lui, et effectivement, hein, le Seigneur va donner la victoire hein, lors de cette bataille. Ils vont se trouver hein, vers le torrent de Kison, verset 13, et c'est là où hein, tous les chars de Jabin vont se réunir, et l'Éternel est celui qui va agir, c'est lui qui va donner la victoire, qui va livrer Sisra entre les mains. Alors, là, encore une fois, on a hein, l'exemple de quand on met en doute la parole de l'Éternel, et que ensuite on voit finalement quand même l'Éternel agir d'une manière extraordinaire hein, pour apporter la libération à son peuple, on se dit mais il a vraiment raté l'occasion. Barak a vraiment raté l'occasion de faire quelque chose d'extraordinaire pour son peuple. S'il avait laissé l'Éternel vraiment le guider, le mener, le fortifier, et s'il avait eu foi en cela. Et alors, combien de fois est-ce que, justement, nous, on se retrouve dans ce genre de situation, hein, où on doute de la parole de l'Éternel, on doute de ce que l'Éternel va pouvoir faire à travers nous, et on cherche des excuses pour ne pas faire, ou on veut pas y aller seul, et on oublie que, ben, on n'est pas seul. On n'est pas seul lorsque le Seigneur nous dit, hein, nous fait savoir, nous fait ressentir par l'Esprit Saint, tiens, parle à cette personne. Parle-lui du Seigneur. Ou de voir une personne, hein, de donner un traité, d'offrir une Bible, ou je ne sais pas. Mais combien de fois est-ce qu'on rate ces occasions-là parce qu'on a cette même attitude que Barak, hein, j'ai peur d'y aller seul, j'ai peur de faire cela, ou je n'ai pas vraiment, hein, foi que Dieu va m'aider dans cette situation-là. Et pourtant, on voit, hein, verset 15, que c'est l'Éternel qui va mettre en déroute Sisra, hein, et que par le tranchant de l'épée, Sisra, tous ses chars et tout le camp, hein, vont connaître la défaite. Et même bon, si Barak, hein, va poursuivre les chars et l'armée, et il ne restera pas un seul homme, hein, de cette armée, au verset 17, nous lisons que Sisra se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber le Kénien. Car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatsor, et la maison de Héber le Kénien. Jaël sortit au devant de Sisra et lui dit, entre, mon seigneur, entre chez moi, ne crains point. Et il entra chez elle dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Elle ouvrit l'outre du lait et lui donna à boire, et le couvrit. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il ici quelqu'un, tu répondras, non. Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisra, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, viens et je te montrerai l'homme que tu cherches. Il entra chez elle et voici Sisra était étendu, mort, le pieu dans la tempe. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël, et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils aient exterminé Jabin, roi de Canaan. Donc, on voit effectivement, hein, cette bataille qui a été livrée, où l'Éternel a accordé la victoire à son peuple, mais il y a surtout ce récit avec cette femme, Jaël, hein, qui est important pour nous, hein, de regarder et d'étudier un peu plus. Alors, 10 000 hommes, oui, mais chapitre 5, verset 8, on va voir que finalement, ils étaient un peu plus que 10 000 hommes, parce que vont se rallier à eux, hein, d'autres hommes, hein, de chez les tribus. Donc, on voit que 40 milliers d'hommes, hein, étaient présents donc lors de cette bataille. Hein, et on voit l'arrivée de volontaires, hein, de Benjamin, d'Éphraïm, de Manassé et d'Issacar. Et on voit surtout que certaines tribus, hein, versets 14 et 15 du chapitre 5, certaines tribus, ben, ne sont pas venues aider, hein, ces tribus qui livraient bataille. Mais celles qui sont venues, elles ont pu voir, donc Dieu leur a accordé cette grande victoire. Et c'est une grande victoire en effet, parce que, à la base, comme on a vu, ben, Israël n'avait pas vraiment d'armes, n'était pas vraiment équipé, hein, face à cette armée, hein, de Jabin constituée de 900 chars de fer. Et donc ce fut une victoire extraordinaire. Mais voilà, on a ce récit donc avec cette femme Jaël, et c'est là où on voit en fait s'accomplir cette prophétie, hein, de Déborah qui avait signifié à Barak qu'il n'aurait pas la gloire, mais ça serait une femme. Alors cette femme Jaël, hein, dont le mari Héber était de cette tribu de Kénite ou de Kénien, hein, et normalement en fait c'était un peuple qui normalement était beaucoup plus proche d'Israël. C'était plutôt un allié. Hein, il descendait en fait de Hobab, un des beaux-frères de Moïse apparemment. Et donc on aurait pu s'attendre à ce que, puisqu'il y a ce lien un peu entre eux, que effectivement, ils aident Israël, mais ce n'était pas le cas. Et on voit et on a lu que donc ils avaient choisi hein, de se ranger aux côtés de Jabin contre Israël. Donc quand Sisra prend la fuite et se retrouve là, il pense arriver chez un ami. Il pense arriver à un refuge. Yaël, donc la femme, ou Jaël, hein, la femme de Hébert, va l'accueillir, l'inviter à entrer, et va le cacher de ses poursuivants. C'est ce qu'on lit au verset 18. Et là, donc, Sisra se pense en sécurité, et il va demander de l'eau à boire, parce qu'à mon avis, il a dû courir bien, bien, bien vite pour essayer d'échapper à l'armée d'Israël. Et on voit une chose surprenante, c'est que Jaël, au lieu de lui apporter de l'eau, va lui apporter du lait. Alors peut-être, lui, il a vu ça comme un signe de « Ah, elle me veut du bien ». Ce geste avait vraisemblablement un double objectif. D'abord, d'apaiser Sisra, hein, qui était convaincu d'être entré dans la tente d'un ami et d'être en sécurité. Et tellement convaincu qu'il était en sécurité, il demande même à Jaël de mentir. Hein, si jamais quelqu'un venait demander, il lui avait dit tu mens, hein, tu dis que je suis pas là. On le sait, le lait, ça aide aussi à dormir. Hein, quand on a une grosse fatigue, hein, le soir, de prendre un bon petit lait bien tiède, ça aide à dormir. Et ça a peut-être justement aidé hein, Sisra à vite s'endormir hein, après cette fuite. Mais voilà, pendant son sommeil, donc cette femme va prendre un des pieux de la tente et mettre à mort Sisra d'une manière assez barbare, assez brutale. Et donc Sisra va périr de la main d'une femme. Alors qu'est-ce qui a motivé ce geste? Peut-être pensait-elle que si on la surprenait à le cacher, elle risquait hein, d'être mise à mort avec lui hein, lorsque Barak les découvrirait. Elle s'était dit, tiens, Sisra, il vient tout seul, il est en fuite, il a l'air d'avoir peur, il a dû se passer quelque chose de grave. Et ça se trouve, hein, ceux qui lui en veulent, ils vont venir après, ils vont le chercher, et s'ils le trouvent chez moi, ils vont le tuer lui, mais ils risquent de me tuer moi aussi. On peut comprendre ce genre de logique-là. Je crois qu'il y a un élément aussi, il faut pas oublier. C'est la réputation de Sisra et de son armée. Dans le chapitre 5, et on l'avait mentionné déjà la dernière fois, au verset 30, lorsque il est question hein, de quel genre d'homme Sisra était, hein, le verset 30 nous dit, ne trouve-t-il pas du butin, ne le partage-t-il pas? Une jeune fille, deux jeunes filles par homme. Ça, c'était la réputation de Sisra et de son armée. Quand on regarde à ce mot ici en hébreu qui est traduit par jeune fille, certains le traduisent autrement. Parce que c'est vrai que ce mot peut signifier, oui, une jeune fille, tout comme ça peut signifier aussi un utérus. Donc on comprend que ici, c'était des hommes qui prenaient ces femmes en esclaves et qui abusaient d'elles, hein, c'était leur coutume. Alors, on peut s'imaginer aussi que Jaël avait certainement peur aussi pour elle-même. Est-ce que c'était là la motivation des agissements de Jaël? Je ne sais pas. On pourrait, c'est vrai, simplement dire que, bon, ne faisant pas partie d'Israël, hein, son geste correspond à ce que n'importe qui ferait à cette époque-là. Hein, et on pourrait l'excuser, tout comme certains excusent le mensonge de Rahab. Il est vrai que, bon, elle a transgressé les règles de culture, hein, d'hospitalité, hein, de son peuple. Elle a aussi quand même menti, hein, elle a feint d'être l'amie de Sisra et elle a fini par le tuer de sang-froid. Et c'est vrai qu'on pourrait aussi rappeler le contexte historique, culturel, hein, de cette histoire sordide. Mais je crois que ce qu'il y a vraiment de troublant, pour beaucoup, c'est qu'au chapitre 5, tout comme au chapitre 4, elle a été honorée. Et elle était bénie, n'est-ce pas? Si vous regardez le chapitre 5 et verset 24, voici les paroles hein, de Déborah. Bénie soit entre les femmes Jaël, femme de Hébert le Kénien. Bénie soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Alors, comment est-ce qu'on peut, voilà, concilier le geste brutal, horrible de Jaël, avec ce que nous savons de Dieu, avec ce que nous savons des enseignements du Seigneur. Comment est-ce que ça peut s'accorder, hein, avec le commandement de Jésus, même d'aimer nos ennemis, de bénir nos ennemis, de prier pour nos ennemis? C'est ce que le Seigneur avait enseigné à ses disciples, n'est-ce pas? Et c'est vrai que certains sont tiraillés, peut-être confus par rapport à cela. Parce qu'il est vrai que même Paul, dans son épître aux Romains, au chapitre 12, hein, nous rappelle que nous ne devons pas nous venger nous-mêmes, hein, que nous devons laisser agir la colère. Pourquoi? Parce que il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Donc effectivement, certains ont du mal à comprendre. Comment est-ce qu'on peut bénir? Comment est-ce qu'on peut louer une telle femme? Enfin, je te dis, c'est vrai. Il faut se rappeler du contexte. Il faut se rappeler de qui était Sisra, de la situation dans laquelle Jaël se trouvait. Il faut se rappeler de toute façon aussi que l'Éternel, à la base, il avait quand même prévu que ce soit Barak qui s'occupe de Sisra. Mais il a fallu que ce soit une femme dont le prénom hein, signifie une chèvre sauvage, pour terrasser hein, ce général de Jabin. Il ne faut pas oublier que pour nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, c'est vrai que nous sommes dans une nouvelle alliance. Nous avons des nouveaux commandements que Christ a donnés, comme, voilà, tu aimeras ton ennemi, tu prieras pour lui, tu vas bénir ton ennemi. Hein, et ça, pour nous, hein, ça va de source. Hein, quand on connaît Jésus-Christ, on comprend cet enseignement-là. Et c'est vrai qu'on peut avoir du mal à comprendre comment ben, cette femme, eh bien, elle a pu être bénie et louée ainsi. Mais quelle était la situation? La situation spirituelle, la situation, on peut dire géopolitique aussi de l'époque hein, dans laquelle se trouvait le peuple d'Israël. Faut se rappeler, c'est vrai que, ben, comme le livre de l'Apocalypse nous rappelle, que c'est Dieu qui va juger à la fin. C'est lui qui jugera toutes choses. C'est lui qui va s'occuper hein, de toutes les injustices. Et pour nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, oui, par la foi, ben, nous devons soumettre à Dieu ben, nos souffrances, l'injustice subie. Pourquoi? Parce que lui-même a promis et il a assuré que sa justice sera appliquée en son temps. Et on doit également se rappeler que sur la croix, justement, Dieu a déjà appliqué sa justice. Parce que la croix n'est pas simplement ce lieu du pardon, c'est aussi la promesse assurée que, ben, par Jésus-Christ, Dieu jugera aussi le monde. Paul, ben, dans Actes 17, verset 31, il nous est rappelé que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc ce Christ crucifié et sauveur que nous connaissons, c'est aussi Christ qui va juger et qui va appliquer sa justice. Et donc la mort et la résurrection de Christ, le salut, la grâce qu'il nous a accordé, elle transforme et elle change profondément notre attitude et nous amène à suivre son exemple. L'exemple de Christ qui, sur la croix, a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous sommes appelés à aimer, oui, à bénir et à prier pour nos ennemis. Et ceci est quelque chose qui est impossible à faire sans la grâce de Christ, sans l'amour qu'il a manifesté pour nous, sans l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. C'est quelque chose qui est impossible sans Dieu. Grâce à la croix, on peut adopter cette attitude de Christ, de pouvoir pardonner même à ceux qui le mettaient à mort. Moi, je suis toujours convaincu que lorsqu'on fait les choses telles que Dieu nous l'a demandé, ça évite ce genre de situation-là. Je suis convaincu aussi que même si on se fait face à une situation où on se dit que ben, peut-être là, ce serait le moment de mentir, peut-être que là, ce serait le moment d'être violent, je suis convaincu que si le plan de Dieu pour nous, c'est de nous en sortir de cette situation-là par sa puissance, par sa grâce, parce que c'est son plan, ça va se produire. mais j'accepte aussi que si son plan pour moi, c'est que face à une telle situation, je suis appelé à continuer à poursuivre la sainteté et à dire la vérité, à aimer mon prochain, même mon ennemi, et à le bénir et à prier pour lui, et même si cela me cause la mort, c'est aussi l'exemple que je vois dans les Écritures. L'exemple d'Étienne, n'est-ce pas? Qui, seul, face à des ennemis remplis de haine, il a la même attitude que notre Seigneur. Pardonne-leur, n'est-ce pas? Ainsi, Barak avait effectivement suivi le plan de l'Éternel, Jaël n'aurait pas eu à faire ce qu'elle a fait. Si Barak avait effectivement répondu à l'appel de Dieu avec, comme on le voit dans le livre d'Ésaïe, Me voici, Seigneur, envoie-moi. La chose aurait été différente. Mais force est de reconnaître que, effectivement, dans ces chapitres, nous voyons vraiment une situation atypique. Nous voyons une équipe atypique. Nous voyons une victoire atypique. Nous voyons quelque chose qui est vraiment sort de l'ordinaire. Et on peut quand même souligner que Jaël a tout de même montré de l'instinct, de l'intelligence par rapport à la situation dans laquelle elle se trouvait. Et elle a su faire le choix, de manière maladroite, le choix, eh bien, de prendre le parti du peuple de Dieu. Alors ensuite, on verra, Dieu voulant, le chapitre 5, de voir ce cantique un peu plus en détail. Et on verra que, bon, c'est pas que Jaël qui est honoré et loué. On va reconnaître ici dans ce cantique, eh bien, que c'est l'Éternel qui a accordé la victoire et de voir quelles ont été les autres personnes qui ont pris part aussi à cette victoire-là. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu ce soir?